Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. En République démocratique du Congo, explosion de deux bombes artisanales dimanche à Beni, dont une à l'intérieur d'une église. Couvre-feu dans la ville. John Lindon nous donnera les détails. Au Burundi, des sources sécuritaires et administratives ainsi que des témoins décrivant des scènes d'horreur ont dit hier qu'au moins 15 personnes ont été tuées samedi soir dans une embuscade tendue contre des véhicules dans la province de Muramvya. Une embuscade du même type y a eu lieu en mai, succédant à une série d'incidents similaires en 2020. Tchad, dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, rendue publique hier, le général Mahamat Idriss Déby, chef de la junte militaire qui a pris le pouvoir au lendemain de la mort de son père Idriss Déby Itno en avril, n'exclut pas une prolongation de la transition de 18 mois avant les élections libres et démocratiques promises. La communauté internationale, l'Union africaine en tête, a exigé que cette période n'excède pas 18 mois. Si on s'entend, c'est-à-dire les Tchadiens, et si l'on nous aide, les 18 mois sont à portée, à notre portée. Dans le cas contraire, ce sera très difficile, a dit Mahamat Idriss Déby. Le président du Burkina, Marc Christian Kabore, a appelé hier l'opposition et la société civile à sursoir aux marches et meetings projetés contre l'insécurité dans son pays en proie à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant Lamine Traoré. En Côte d'Ivoire, accueil triomphal pour l'ancien président Laurent Gbagbo dans son village natal, 10 jours après son retour au pays et une absence de 10 ans. Abdourahmane Diaf fera le point. La France a condamné hier l'attaque qui a causé la mort de 3 employés de la branche espagnole de Médecins sans frontières dans la région éthiopienne du Tigré. La protection du personnel de santé est une obligation du droit international qui s'impose à tous les acteurs dans les conflits armés, rappelle le Quai d'Orsay. Les États-Unis ont demandé une enquête indépendante sur l'attaque. Le ministère tunisien de la Défense a annoncé hier que sa marine a secouru 178 migrants de différentes nationalités qui tentaient de traverser la Méditerranée pour rallier l'Europe depuis la Libye. Il a ajouté avoir récupéré aussi les corps de 2 autres migrants lors de 3 opérations de sauvetage au large de la côte sud du pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé hier de nouvelles restrictions dans le pays le plus touché du continent pour faire face à la forte hausse des contaminations au coronavirus provoquée par le très contagieux variant Delta initialement observé en Inde. M. Ramaphosa a brossé un tableau très sombre de la situation. En Russie, la capitale Moscou ne parvient pas à juguler le coronavirus malgré des restrictions renforcées ces dernières semaines, recensant des records successifs de décès tandis que le variant Delta poursuit son essor planétaire au grand dam de pays impatients de retrouver une vie normale. Des combattants du Hashd al-Shaabi en Irak ont été tués dans des frappes aériennes menées la veille par les États-Unis, a indiqué aujourd'hui cette influente coalition de paramilitaires pro-iraniens en menaçant de venger, je cite, ces martyrs. Une poignée de combattants ont péri dans les raids, a-t-elle affirmé dans un communiqué. Les États-Unis ont annoncé avoir frappé des milices soutenues par l'Iran en Irak et en Syrie voisine hier, en riposte à la multiplication des attaques de drones contre leurs intérêts en Irak. Le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, lors de sa première rencontre avec son homologue américain Anthony Blinken, a exprimé les fortes réserves de son pays concernant les négociations pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien, tout en souhaitant un dialogue renforcé avec Washington. Le président Biden reçoit aujourd'hui le président sortant d'Israël, Reuven Rivlin. M. Blinken a souligné avec hier de Lapid la question de l'aide humanitaire à Gaza. La fin du tragique, le bilan du tragique effondrement d'un immeuble près de Miami en Floride est passé à au moins 9 morts dimanche, les secours continuant à rechercher nuit et jour plus de 150 personnes toujours portées disparues.
La suite de nos informations. Deux bombes artisanales ont explosé hier dimanche dans la ville de Beni, dont une à l'intérieur d'une église en République démocratique du Congo. C'est une première dans cette région de l'est du pays où sévit le groupe armé ADF affilié aux djihadistes de l'État islamique selon les États-Unis. John Linden.
Le colonel Narcisse Moutéba, maire de Beni, a décrété dimanche soir un couvre-feu dans la ville. « Je ne veux voir personne dans la rue, que tout le monde se barricade. Je ne veux voir que des policiers et des militaires dans les rues. » Une première bombe a détonné dans la matinée à 6 heures, heure locale. Deux femmes ont été blessées, l'explosion ayant eu lieu dans une église avant l'heure d'affluence des fidèles pour une importante cérémonie de sacrement de confirmation aux enfants, a précisé le vicaire général de Beni, Mgr Laurent Sondiria. Quelques heures plus tard, vers 19 heures, le porteur d'une deuxième bombe a été tué dans l'explosion de son engin près d'un bar où une dizaine de personnes étaient rassemblées dans la commune de Rwenzori, a indiqué le colonel Narcisse Moutéba, maire de Beni. Samedi, une bombe avait déjà explosé en périphérie de la ville à côté d'une station d'essence sans faire des dégâts. La région de Beni est terrorisée depuis des années par le groupe armé ADF, un groupe qui ne revendique jamais ses attaques.
Plusieurs milliers de personnes ont réservé ce dimanche un accueil triomphal à l'ex-président Laurent Gbagbo dans son village natal de Mama, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, 10 jours après son retour à Abidjan, à la suite de son acquittement par la justice internationale. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Sous les hurlements de joie, les hurrahs et les mains levées faisant le vœu de la victoire, Laurent Gbagbo est arrivé à Mama à la tombée de la nuit en provenance d'Abidjan qu'il avait quitté par la route à la mi-journée. Dès sa descente de voiture, l'ex-président, vêtu d'une chemise blanche et souriant, a pris un bain de foule. Il a remercié les gens d'être venus si nombreux. 10 ans d'absence, c'est beaucoup. Demain lundi, je vais vous donner des nouvelles, a-t-il ajouté. Je l'ai vu, ça suffit pour moi, crie un jeune en transe. Malgré le coucher du soleil, l'annonce de son arrivée a continué à attirer vers Mama des centaines de personnes venues des villages environnants. Pour se rendre dans la région du centre-ouest de Gagnoa, où se trouve le village, Laurent Gbagbo est passé par la capitale politique Yamoussoukro. Avant d'arriver à Mama, il est allé à Blouson, localité proche, se recueillir sur la tombe de sa mère Marguerite Gado, décédée en 2014 alors qu'il était incarcéré à la prison de la Cour pénale internationale. Entre Yamoussoukro et Mama, son cortège a été ralenti à plusieurs reprises par une foule enthousiaste venue l'acclamer, ce qui explique son arrivée tardive dans son village.
Les Français ont encore boudé les urnes hier au second tour des élections régionales, un second tour marqué par un échec de l'extrême droite de Marine Le Pen et du parti du président Emmanuel Macron. Le point avec Bagassi Koura.
Environ les deux tiers, selon les estimations des quelque 48 millions d'électeurs, ne se sont pas exprimés à peine moins que la semaine dernière, qui avait marqué un record pour les élections depuis le début de la Ve République en 1958. Les bureaux de vote ont fermé à 18h, temps universel. « Je viens voter, mais ça ne sert à rien », résumait à Strasbourg Hugues Hubert, 66 ans, un retraité du secteur du transport. « Voter pour la présidentielle, d'accord, mais pour les départementales, on ne sait rien ». Que vont faire les candidats? Aucune idée. Ce second tour confirme l'échec des partis de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron et le sursaut des partis traditionnels installés de longue date dans le paysage politique local, permettant aux barons de la droite et de la gauche d'affirmer que le suspense est relancé pour la présidentielle de 2022. Tous ces présidents de régions sortants ont d'ailleurs été réélus, 7 pour la droite qui apparaît vainqueur et 5 pour la gauche en France continentale. L'extrême droite, notamment le Rassemblement national de Marine Le Pen, ne remporte pas la seule région pour laquelle il avait une chance, celle de province Alpes-Côte d'Azur, qui reste à la droite, les Républicains LR, soutenus par la gauche dans la tradition du Front Républicain que les partis traditionnels suivent depuis des décennies pour empêcher le Rassemblement national de remporter des élections. Du côté de la majorité présidentielle, la journée est également maussade avec, comme prévu, aucune région gagnée. C'est une déception pour la majorité présidentielle, a admis Stanislas Guérini, le délégué général du parti.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale sur la ZECLAF, la zone de libre-échange continentale africaine, pour mieux accompagner les entreprises et les rendre plus compétitives. Des études sur des marchés spécifiques porteurs ont été réalisées pour rendre plus performantes les entreprises ivoiriennes, selon Kaladji Fadiga, directeur du commerce extérieur. Au Niger, la production d'or a poursuivi sa dégringolade pour se situer à 134 kilos environ en 2020, selon les estimations de la BCAO. La production d'or du pays a culminé à 1,2 tonnes en 2015, selon le site Niamey et les Deux Jours. La production du pays provient essentiellement des mines artisanales qui se trouvent dans la région de Tillabéri, dans la zone des Trois Frontières. Suite aux attaques djihadistes, les orpailleurs ont été contraints de fuir leur village. Leur valeur refuge s'est ressaisie la semaine dernière sans compenser les pertes importantes subies après la réunion de la Banque centrale américaine. Les investisseurs hésitent à amasser des lingots avant d'en savoir plus sur les perspectives d'inflation. L'or profite généralement des inquiétudes du marché sur une hausse des prix non contrôlée par les banques centrales.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une, c'est la fin des championnats en Afrique et au Togo. L'ASCO de Kara est sacré champion.
Oui, le club de la Cosa conserve son titre au terme d'une finale face à son rival la SEK et dont le vainqueur a été connu après les tirs au but. 4-3, un but partout après le temps réglementaire. Au Burkina Faso, c'est l'AS Sonabel qui remporte le premier titre de champion de son histoire après avoir battu FC Bobo Dioulasso 3-2 à l'issue de la dernière journée du championnat. Du côté de la Côte d'Ivoire, la SEC d'Abidjan, après son nul 0-0 face à FC San Pedro, s'est offert son 27e titre au terme de la Super Division. Et puis, en RDC, le TP Mazembe a été sacré champion sur le terrain grâce à sa victoire 1-0 à Kindu devant Maniema Union. Pour l'instant, rien d'officiel puisqu'il y a quelques recours administratifs à gérer par la LINAFOOT.
Au Mali, on jouait en revanche la finale de la Coupe nationale.
Et c'est bien le stade malien qui s'adjuge le trophée aux dépens de Binga FC, club de 2e division. Mené 2-0 à 10 minutes de la fin du match, le club de Bamako a refait son retard pour finalement l'emporter 3-2 et signer donc le doublé Coupe Championnat. En Tunisie, c'est le club sportif soissien qui remporte la Coupe en battant en finale le club africain au tir au but 5-4.
Les interclubs de la CAF à présent, on connaît les finalistes de cette saison.
En Ligue des Champions, victorieux 1-0 de l'Espérance de Tunis à l'aller. Le National à l'aller du Caire a validé son billet pour la finale en disposant de nouveau, mais cette fois 3-0 du club tunisien. Les Égyptiens, tenants du titre et forts de leur 9 sacs, affronteront le 17 juillet prochain à Casablanca au Maroc les Sud-Africains de Kaiser Chiefs qui, eux, se sont contentés du nul 0-0 face aux Marocains du Wydad de Casablanca qu'ils avaient déjà battu 1-0 à l'aller.
On connaît aussi l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération.
Tout à fait. Et ce sera Raja de Casablanca, Jeunesse Sportive de Kabylie. Les Algériens ont dominé, non sans peine, le Coton Sport de Garoua 3-0 en demi-finale retour, après l'avoir battu 1-0 à l'aller au Cameroun dans l'autre demi-finale. Ça a été plus difficile pour les Marocains qui ont dû recourir aux séances fatidiques des tirs au but 5-4 avant d'écarter les Égyptiens de Pyramide 0-0 sur l'ensemble des deux matchs. Qualification donc du Raja de Casablanca qui jouera cette finale face à la JS Kabylie le 10 juillet prochain. À Cotonou.
Football toujours avec les huitièmes de finale de l'Euro 2021, les premiers qualifiés connus.
Oui, et la Belgique a remporté le match choc contre le Portugal grâce à Tongen Hazard, auteur du seul but de la rencontre. Les Diables Rouges défieront l'Italie en quart de finale. La Squadra Azzurra continue son sans faute en battant l'Autriche 2-1. Et puis, cette surprise, la République tchèque qui a éliminé les Pays-Bas score 2-0 pour affronter l'autre sensation, le Danemark qui a dominé facilement les pays de Galles 4-0. La suite aujourd'hui de ces huitièmes de finale. Croatie-Espagne à Copenhague et France-Suisse à Bucarest. Les deux qualifiés vont s'affronter en quart de finale.
D'une Coupe des Nations à une autre, la Copa América avec la quatrième et dernière journée des matchs de poule.
Exactement, Idrissa. Et le dernier ticket des quarts de finale du groupe B est allé à l'Équateur, auteur d'un nul 1-1 face au Brésil. Le Pérou, vainqueur 1-0 du Venezuela, termine deuxième. Au programme aujourd'hui dans le groupe A, Uruguay, Paraguay et Bolivie, Argentine. Les deux matchs vont se jouer simultanément.
Merci, Élise. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie. Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire, qui est délétère depuis des semaines, a contraint le président Roch Marc Christian Kabore à s'adresser hier soir à la nation burkinabé. Une allocution qui était attendue par les populations depuis le massacre de Solane dans le Sahel en début juin. Le président Kabore a appelé à l'union sacrée et demandé à l'opposition de sursoir à ses marches de protestation prévues le week-end prochain. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À 20h sur la télévision nationale, le président Kabore a pris place. Un discours d'un peu moins de 6 minutes. Il n'y aura pas ce soir-là de dissolution du gouvernement, encore moins de changements dans les dispositifs de défense et de sécurité. Roch Kabore lance un message d'apaisement et de calme au Burkinabé. L'opposition avait menacé vendredi de marcher le week-end prochain. Roch Kabore.
Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise, ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays. Je demande instamment à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de sursoir aux marches et meetings projetés.
Le rétablissement de la confiance avec le peuple dans le secteur de la sécurité, l'amélioration de la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par les forces de défense et de sécurité, l'amélioration de l'efficacité de l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire sont entre autres les quelques grandes lignes de ce discours.
Le discours qui nous a été servi me semble vide.
Abdoulaye Souma est le président du mouvement Soleil d'Avenir et de l'opposition non affiliée, candidat malheureux à la dernière présidentielle.
Vide de contenu, nous attendions des annonces fortes, des décisions courageuses, des solutions à la crise sécuritaire notamment et bien d'autres problèmes. Et d'ailleurs, le chef de l'État n'a abordé que la crise sécuritaire. Pourtant, il y a bien d'autres crises. La crise financière est là, la crise économique est là, la crise sociale est là, la crise politique est là. Toutes ces crises se superposent à la crise sécuritaire pour former un cocktail difficile pour le Burkina Faso.
Cet avis est largement partagé au sein des analystes. Pazien est juriste et analyste politique.
Le président du Faso a l'habitude de tenir ce genre de discours. Il le dit en fin d'année et à toutes les occasions qui se présentent lorsqu'il y a des attaques sont perpétrées. C'est le même appel donc à l'Union nationale, mais l'opinion publique, la nation entière, s'en est à ce que des mesures précises soient prises, mais peut-être il n'est pas exclu que dans les jours à venir, il puisse avoir un remaniement ministériel.
C'est un discours très engagé qui montre que le président à la pleine mesure de la situation actuelle.
Bienvenue, Baki Ono est membre du bureau exécutif national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir. Il pense que l'opinion devrait se patienter.
C'est un discours de rupture. Il a fait les déclarations. Ensuite, c'est par décret présidentiel ou bien décret pris en conseil des ministres que les changements vont s'opérer. Donc il faut attendre dans les heures ou les jours à venir pour voir l'effectivité dans les changements et éventuels différents postes stratégiques.
Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, le gouvernement annonce la construction d'une importante infrastructure routière dans l'une des deux régions anglophones du pays. Il s'agit d'un tronçon d'environ 365 km, communément appelé la Ring Road, qui va relier 5 des 7 départements de la région du Nord-Ouest. C'est l'une des recommandations du Grand Dialogue National tenu en 2019 en vue de la prise en compte des revendications des populations des zones anglophones où sévit une crise séparatiste depuis 2016. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Le manque criard des infrastructures routières et l'enclavement des bassins de production dans la région du Nord-Ouest, frontalière du Nigeria, figurent parmi les revendications portées à l'attention du gouvernement par les leaders de la société civile anglophone. Ces derniers ont décrié l'absence des routes bitumées reliant le département de la région du Nord-Ouest.
Le peuple de la région du Nord-Ouest attendait impatiemment la Ring Road.
Fou Angwafo-Troua, président du conseil régional de la région du Nord-Ouest.
Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nos populations. Il nous reste maintenant de nous mobiliser pour qu'ensemble et en synergie, nous travaillons avec le gouvernement pour impulser le développement tant attendu.
280 km de la Ring Road vont être aménagés et réhabilités sur une linéaire qui forme une boucle et dessert 9 principales localités de la région du Nord-Ouest à partir de Bamenda, avec en plus un raccordement à la frontière nigériane à partir de la localité de Misagé. Les riverains du tracé, contactés via le réseau social WhatsApp, exulte.
Le Ring Road traverse dans mon village même, Babongo. Donc c'est une bonne initiative. J'espère que comme on a lancé là, ça va commencer vite.
Ça va impacter positivement l'économie dans la région.
Ça va beaucoup aider à développer le Nord-Ouest.
Le 22 juin 2020, soit 8 mois après la fin des assises du Grand Dialogue National, le président Paul Biya a autorisé la signature d'un accord de prêt d'un montant de 106 milliards de francs CFA pour la construction de la Ring Road. Il a fallu attendre 12 mois pour voir aboutir le processus de financement. Le pouvoir de Yaoundé ne lésine pas sur la portée politique de cette route. Alamine Ousmane Mé, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Il vous souvient que l'une des recommandations issues du Grand Dialogue National était celle d'accélérer la construction, la reconstruction de certaines infrastructures indispensables à la stabilité, à la paix, mais aussi au développement économique. Donc, le plan politique, le chef de l'État l'a dit, il le fait et les financements sont disponibles pour réaliser cette importante infrastructure.
La livraison de cette infrastructure routière est prévue pour le 31 décembre 2024. Le projet va s'accompagner d'autres aménagements tels que des établissements scolaires, des magasins de stockage des produits agricoles, la construction des centres multifonctionnels pour des jeunes de cette partie du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la vice-présidente américaine Kamala Harris s'est rendue vendredi à El Paso, au Texas, pour sa première visite officielle à la frontière sud des États-Unis. Après ses voyages au Guatemala et au Mexique, elle voulait voir des visites les centres de détention des migrants et la façon dont le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis gère la situation. D'El Paso au Texas, le reportage de Celia Mendoza de la VOA, repris ici par Michel Joseph.
La vice-présidente Kamala Harris est arrivée vendredi à El Paso, au Texas, pour sa visite tant attendue à la frontière sud du Mexique dans le cadre du plan de l'administration Biden visant à endiguer le flux d'immigration. Madame Harris était accompagnée du secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.
So the work that we have to do is the work of addressing.
Le travail que nous devons faire est celui qui consiste à s'attaquer à la cause, aux causes profondes, sinon nous continuerons à voir les effets de ce qui se passe à la frontière. Cela va nécessiter, comme nous l'avons fait, une approche globale et la reconnaissance de chaque aspect de ce problème, et aussi reconnaître que les États-Unis sont un voisin dans l'hémisphère occidental. Non seulement nous avons la raison de nous préoccuper des causes profondes, non seulement à cause de ce que nous voyons à la frontière, mais aussi parce que nous vivons dans ce quartier.
We live in that neighborhood.
De l'autre côté de la frontière d'El Paso se trouve Ciudad Juarez. Ici, le migrant hondurien Manuel Orlando Pinto Medina espère transmettre son message à Harris et Mayorkas.
Je voudrais qu'ils sachent que beaucoup d'entre nous quittent leur pays par peur, par nécessité, par pauvreté, par manque de sécurité. Il n'est pas facile d'abandonner son pays.
Le président du Parti républicain d'El Paso, Bobby Peña, considère cette visite comme une démarche politique.
La raison pour laquelle la vice-présidente vient est simplement parce que le président Trump a dit qu'il
venait.
Peña fait référence à une annonce de l'ancien président américain Donald Trump qui a prévu de se rendre à la frontière le 30 juin. Peña également souligne les déclarations controversées de Harris lors de son récent voyage au Guatemala et au Mexique.
Si Trump n'était jamais venu, elle ne serait peut-être jamais venue. Elle dit toujours oui, je vais y aller. Elle n'est pas intéressée, tout comme elle n'est pas allée en Europe, elle n'est pas intéressée.
La vice-présidente Harris a répété que sa priorité était de se concentrer sur la recherche de solutions aux causes profondes de la migration. Pour Fernando Garcia, directeur du Border Network for Human Rights à El Paso, cette visite arrive au bon moment.
Il était temps qu'elles viennent écouter nos communautés. Nous avons des milliers d'enfants dans une base militaire appelée Fort Bliss. Ces enfants n'ont pas à être incarcérés. Ils doivent être avec leur famille. J'espère qu'elle va résoudre ce problème.
Vendredi, Mme Harris a visité les centres de traitement de la patrouille frontalière où les migrants, y compris les enfants non accompagnés, sont détenus après leur entrée aux États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, devra purger 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l'Africain-américain George Floyd. En avril dernier, cet agent blanc a été reconnu coupable de meurtre et d'homicide involontaire. Cette affaire avait déclenché des protestations aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et des appels à une plus grande prise de conscience raciale. Robert Raphaël de VOA nous en dit plus sur la sentence de vendredi. Le récit est d'Eric Manirakiza.
As sentence for count one, the court commits you to the custody of the Commissioner of Corrections for a period of 270 months. That's 270.
Comme sentence pour le premier chef d'accusation, la Cour vous condamne à une période de 270 mois de prison. C'est 270. C'est un ajout de 10 ans à la peine présumée de 150 mois. Ceci est basé sur votre abus de confiance et d'autorité et aussi la cruauté particulière montrée à George Floyd.
Pendant que Derek Chauvin écoutait, le juge Peter Cahill a assuré qu'il n'avait pas pris sa décision en fonction de l'opinion publique et qu'il reconnaissait la douleur que l'affaire avait causée à tout le monde dans la salle d'audience et ailleurs. Plus tôt dans l'audience, Chauvin s'est brièvement adressé à la famille Floyd sans toutefois présenter d'excuses.
At this time, due to some additional legal matters at hand,
en ce moment, en raison de certaines questions juridiques supplémentaires, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration officielle complète, mais très brièvement cependant, je tiens à présenter mes condoléances à la famille Floyd.
Mais les membres de la famille de Floyd ont dit à la Cour que les mots ne peuvent pas enlever leur douleur. Le neveu de Floyd a déclaré plus tard que la sentence du juge n'est pas une véritable justice pour son oncle.
I wanted to know from the man himself why.
Je voulais savoir de la bouche de l'homme lui-même.
What were you thinking?
Pourquoi? À quoi pensiez-vous?
What was going through your head?
Qu'est-ce qui vous passait par la tête quand vous aviez votre genou sur le cou de mon frère?
Why, when you knew that he posed?
Pourquoi ne vous êtes pas au moins levé? Pourquoi êtes-vous resté là?
Why you didn't at least get up? Why you stayed there? The rest of our
family. La vidéo enregistrée avec un téléphone portable montrant Chevin posant son genou sur le cou de Floyd à l'extérieur d'un magasin de Minneapolis en mai 2020, ainsi que plusieurs autres meurtres très médiatisés de citoyens noirs ces dernières années, ont suscité des protestations ici aux États-Unis et dans le monde entier. Chevin fait toujours face à des accusations civiles fédérales dans la mort de Floyd. Il devrait faire appel de sa condamnation et de sa peine.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.